Je vais donc avoir le plaisir de vous présenter dans les minutes à venir un modeste exposé, j'insiste sur le qualificatif, entre conquête et intégration, le traité de Saint-Clair-sur-Epte revisité, point d'interrogation bien évidemment, sous-titré « Prolégomène pour une enquête à mener ». Ne voyez pas ou ne cherchez pas dans mon propos une analyse exhaustive d'un thème qui a bien évidemment été très largement abordé par des historiens bien plus spécialistes que moi de la question. Envisageons plutôt cette présentation comme, disons, quelques pistes que je souhaiterais aborder dans les mois et années à venir. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, pardonnez-moi l'affront de vous le rappeler, par lequel Charles le Simple céda au chef viking Rollon une part de l'ancien royaume de Neustrie, est longtemps demeuré le principal et malheureux fait d'armes du roi carolingien. Contribuant à la dépréciation de son règne, la naissance de la Normandie est longtemps passée pour l'illustration flagrante de l'irrésistible décadence qui s'était alors emparée de l'État. Au début du XVIIIe siècle, Gabriel Daniel, historiographe officiel de la monarchie, illustre ce point de vue en considérant que la trop grande crédulité de Charles le faisait trop aisément tomber dans les pièges de ses ennemis, lui firent donner le surnom de Simple et causèrent bien des maux à la France. Et il poursuit, un des plus fâcheux et des plus honteux à la nation fut le démembrement qui se fit alors de cette grande et riche province appelée aujourd'hui la Normandie. Cette position historiographique a dominé jusqu'au seuil des années 1900 pour céder la place à une lente réhabilitation du fils de Louis le Bègue. La cession d'une partie des rives de la Basse-Seine aux pirates normands, compagnons de Rollon, écrivait il y a à peine plus d'un siècle Philippe Lower, ne peut être considérée comme un affaiblissement de la puissance royale, quoi qu'en ait dit la plupart des historiens qui ont coutume de flétrir la mémoire de Charles le Simple, principalement pour ce motif. Lentement, cette nouvelle appréciation a fini par s'imposer, et il est vrai que les diverses relectures des diplômes issus de la chancellerie royale ont commencé à révéler un prince actif, conscient d'être héritier d'une famille illustre, ayant moins subi qu'il a tenté d'endiguer le flot des forces centrifuges qui fragilisaient alors la cohésion du regnum. Parallèlement à cette réhabilitation, la synergie des disciplines historiques a permis d'étendre le champ d'investigation des premières décennies de l'histoire normande. Un effort important associant aux découvertes archéologiques les avancées de l'anthropologie, notamment de l'anthropologie juridique, et de l'histoire du droit, a amené à reconfigurer les rapports des pirates scandinaves au roi franc, proposant ainsi une nouvelle compréhension du phénomène viking. Offrant au traité de 911 une nouvelle contextualisation, ces recherches ont insisté sur les facteurs d'intégration des premiers Normands à la société carolingienne. Elles ont ainsi bousculé un schéma mental, jusqu'alors dominant et en grande partie hérité du siècle des Lumières. On sait en effet que la littérature du XVIIIe siècle a longtemps ancré dans le conscient collectif l'idée que les invasions normandes pouvaient livrer, à l'instar des invasions barbares des 4e et 5e siècles, une illustration de la théorie du droit de conquête. Mais empêtrée dans les méandres d'une querelle qui, à l'époque, opposait germanistes et romanistes, bien des auteurs hésitaient alors entre le modèle habituel de la conquête, c'est-à-dire l'imposition par les conquérants aux conquis de leur coutume gentilice, et le modèle d'une influence manifeste des droits indigènes au détriment des mœurs de ces mêmes conquérants. Des études récentes ont cependant alerté sur la nécessité de revenir sur ce vieux débat, en partie hérité de l'œuvre de Montesquieu, qui, on le sait, plus que tout autre, a imprimé sa marque sur l'historiographie juridique. De nouvelles grilles de lecture ont émergé de ces études, particulièrement destinées à revisiter les principaux accords entre les chefs barbares et les autorités romaines, et ont conduit à jeter un nouveau regard sur les origines du droit franc. Alors je souhaiterais, dans les minutes qui viennent, me soumettre à l'exercice, pour le moins périlleux, d'appliquer ces grilles de lecture au cas normand, afin d'envisager ce qu'elles peuvent offrir à une relecture du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Pour poser les prolégomènes, je vous le disais tout à l'heure, de ce qui pourrait constituer des recherches à venir sur les origines du droit normand, je me propose de laisser de côté la principale source dont nous disposons, à savoir le « De moribus de Dudon de Saint-Quentin », rédigé à la charnière de l'an 1000. On le sait, le chanoine Picard écrivit autant pour fonder un mythe que pour restituer une vérité historique, quitte à prendre avec cette dernière une certaine liberté consciente ou inconsciente. Pierre Bouet l'a montré, avec toute sa science, le De Mori Bus contribue finalement autant à nous éclairer sur le traité de Saint-Clair-sur-Epte qu'à obscurcir nos connaissances sur le sujet. C'est la raison pour laquelle je préfère m'appuyer sur l'unique document le plus proche de la date supposée de la conclusion du traité, c'est-à-dire le célèbre diplôme du 14 mars 918, par lequel Charles le Simple reconnaît la cession pro tutela regni d'une part de la Neustrie aux Normands de la Seine. Entre conquête et intégration, la relecture de ce diplôme nous permettra de revisiter le traité de 911, plus particulièrement de réévaluer le rôle du roi Charles le Simple dans le processus d'intégration des Scandinaves, tout en proposant quelques pistes de réflexion, modestes, je le répète, sur la genèse du droit normand. Attaché à occuper certains îlots de la vallée de la Seine dès les années 850, les Normands profitent à partir des années 880-890 de l'abandon de Vicky, situé à l'embouchure du fleuve, pour entamer une colonisation durable du territoire franc. Un faisceau d'indices a permis d'imaginer l'existence d'un processus d'intégration politique et ou religieuse entamé bien en amont du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Pierre Baudouin et Jacques Le Mao, notamment, ont récemment repris l'hypothèse d'une alliance entre Francs et Normands de la Seine dès les premières années du Xe siècle, comme une sorte de modus vivendi entre les nouveaux arrivants et les cadres carolingiens demeurés sur place. Ainsi, le postulat d'un pactum securitatis entre Rollon et l'archevêque de Rouen a été proposé, dont la conclusion, autour de 905 vraisemblablement, pourrait constituer une première étape vers la reconnaissance de ce qui sera bientôt le duché de Normandie. Or, quelques témoignages tardifs, cependant, rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer totalement cette thèse intéressante. Elle n'en est pas moins soutenue parce que l'on suppose des liens précoces noués entre Rollon et le clan robertien. Au tournant des 9e et 10e siècles, la Neustrie constitue en effet, d'une certaine manière, la chasse gardée du marquis Robert. Étendant son réseau d'alliances, celui-ci est parvenu à verrouiller la vallée de la Seine dès les dernières décennies du 9e siècle, notamment par ses liens avec Herbert de Vermandois autour de 890. Ce dernier, d'ailleurs, voyant constituer à son profit la création d'une marche de l'Oise destinée justement à stopper les incursions scandinaves. Or, les historiens accréditent l'idée que Rollon, bien avant la conclusion du traité de Saint-Clair-sur-Epte, s'est engagé dans ce réseau d'alliances, probablement par l'intermédiaire du Prævalens Princeps Béranger. Cette intégration du chef viking au réseau robertien pourrait étayer l'idée que le roi se trouve finalement hors champ et que l'alliance scandinave lui échappe désormais. Quoi qu'il faille certainement apprécier avec quelques réserves le bilan souvent négatif de la situation royale de la fin du IXe siècle, les travaux, notamment de Josiane Barbier, ont en outre permis d'attester une nette régression du fiscus dans certains territoires de la future Normandie, en Talou notamment, régression accompagnée d'une décélération de l'installation des fidèles du roi depuis le règne de Charles le Chauve. L'absence totale d'allusion aux pagouses de Rouen dans les actes royaux entre 905 et 918 constitue la présomption solide de la véracité de ce recul. Ce jeu de balancier entre l'affaiblissement de la présence carolingienne et le renforcement de la présence robertienne illustre traditionnellement la naissance des principautés et, plus précisément, une rupture d'équilibre. Or, c'est précisément cette rupture, apparemment consommée au début du Xe siècle, que tente de corriger le diplôme du 14 mars 918. Reprenons en substance ce qu'indique l'acte en question. Charles le Simple y consent à la cession au profit de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, des terres ayant appartenu à l'ancienne abbaye de la Croix-Saint-Ouen, excepté, précise le texte, la partie de cette abbaye que nous avons concédée aux Normands de la Seine, c'est-à-dire à Rollon et à ses compagnons, pour la tutelle du royaume. La notion de tutela regni ici mentionnée apparaît dans plusieurs sources franques des 9e et 10e siècles. Elle dérive cependant de sources plus anciennes, antiques, dans lesquelles la tutelle correspond généralement à la fonction capitale que le princeps exerçait jadis sur l'État. Dion Cassius, par exemple, nous pourrions citer d'autres auteurs, Velleius Paterculus. Dion Cassius rappelle, par exemple, qu'Auguste fut, à la genèse de l'Empire romain, investi de la cura et tutela rei publicae universa. Dès lors, avec la Renaissance carolingienne, sur laquelle l'influence antique est notable, la notion de tutela regni est prise comme un élément constitutif du ministerium regis. La tutelle cercle ainsi les principales fonctions régaliennes qui sont d'assumer la paix, d'assurer la vigueur des lois, de défendre et de protéger les lieux consacrés, d'assurer la protection des faibles et des indigents. Elle consacre surtout l'impérieux devoir du monarque de préserver le royaume de l'oppression des Normands, comme le rappelle une lettre de Foulque de Reims adressée à Charles le Gros pour l'exhorter à assumer la tutelle et la défense du royaume ravagé de tous côtés par les païens. Autour de l'an 1000, l'historien Richer ne s'y trompe guère lorsqu'il explique qu'en 888, Charles le Simple étant trop jeune pour régner, nul ne se souciait de son profit ni de la tutelle du royaume. Il écrit « Nemo regni tutelam quae rabat ». En d'autres termes, à la charnière des 9e et 10e siècles, instant qui nous préoccupe, la tutela regni, alors qu'il convient de distinguer de notions connexes comme la defensio patriae, j'aurai l'occasion peut-être dans la version écrite de cet exposé de préciser cette distinction, la tutela regni donc reste intrinsèquement liée à l'exercice du pouvoir royal. La référence à la tutelle dans le diplôme de 918 attesterait alors un souci eschatologique qui ne saurait se réduire à une vaine littérature. Motif essentiel de la cession de la Normandie à Rollon, elle appuierait l'idée que, loin d'être une marque d'impuissance, la naissance d'une marche normande correspond à un plan d'équipement politique lié au devoir de protection que le roi doit à son royaume. En bref, lorsqu'il consent à l'installation en Eustrie des Normands, Charles le Simple ne fait que respecter ce pourquoi Dieu l'a fait roi. Alors, bien sûr, une telle interprétation ne peut bien se comprendre qu'à l'aune des événements des années 888-898. Cette approche fonctionnelle de l'émergence du duché normand a pour corollaire une mise en valeur des fondements du pouvoir dont Charles le Simple s'estime le légitime détenteur et qui sont étayés tant par la tradition royale que par la tradition impériale. Il est en effet une constante du règne de Charles le Simple de rappeler son appartenance à la stirpe regia, ce qui, certes, correspond aux habitudes stylistiques de la chancellerie royale, mais doit aussi s'entendre au regard des événements de 888 et de l'avènement sur le trône franc du roi Eudes. C'est certainement dans cette veine qu'il convient d'apprécier, autour de la date supposée du traité de Saint-Clair-sur-Epte, la réapparition dans la titulature royale de la formule Rex Francorum, laquelle dénote une volonté de raviver l'héritage glorieux des ancêtres royaux et de demeurer surtout une autorité fédérative, une sorte de centre de convergence contre les forces centrifuges qui menacent la cohésion du royaume. D'autres allusions, elles aussi contenues dans les diplômes royaux proches de la date supposée du traité de Saint-Clair-sur-Epte, pourraient conforter ce point de vue. Par exemple, l'utilisation, à la charnière des années 911-912, de la formule vir illustris, accolée au rex francorum, qui n'est pas sans rappeler les vieilles distinctions dont avaient usé les premiers carolingiens, et plus encore, les monarques mérovingiens. Ce retour aux titres anciens témoignerait de rechef de la volonté de Charles d'exploiter le legs du passé pour étayer sa position dominante et contrecarrer ainsi l'ambition de ses rivaux. Ce qu'il convient surtout de remarquer, c'est qu'au versant franc de son pouvoir, Charles le Simple ajoute un versant sinon romain, en tout cas romanisant. Ce versant romanisant n'est pas, nous allons le voir, portée politique ni une grande signification juridique. L'on voit ainsi se multiplier dans les actes originaux réputés comme tels de Charles le Simple les formules telles que la divine mémoire de l'empereur Charles, notre ancêtre, pour le remède de l'âme de notre glorieux ancêtre de pieuse mémoire, l'empereur Charles. nos glorieux pères les empereurs, c'est-à-dire Charles et Louis, etc., etc. J'arrête là ce florilège. La portée de ces nombreux renvois à la titulature impériale ne se limite pas à se placer à l'ombre des ancêtres et semble empreinte d'un sens politique plus profond. Deux chartes de Charles le Simple, rédigées autour de l'an 900, contiennent en effet les formules « Avus noster carolus imperator et augustus » et « Avi nostri anime piissimi augusti ». Ces mentions ne sont probablement ni anodines, ni uniquement destinées à raviver le souvenir de la restauration impériale, afin de justifier l'imperium auquel Charles le Simple prétend sur la pars occidentalis du royaume franc. Derrière ces formules pourrait en effet se cacher un renvoi direct à la auctoritas imperatoris ou la auctoritas principis. Si originellement, le détenteur de la auctoritas est celui qui valide un acte et lui confère toute sa force morale, l'on sait aussi que la auctoritas est, en droit romain, à la racine même de la notion de tutelle, telle qu'on la retrouve exprimée au digeste, dans une perspective traditionnellement privatiste, la tutelle exercée sur les pupilles, mais aussi au livre 16 du code théodosien, dans une approche nettement plus publiciste, puisqu'il y est fait allusion à la tutelle que le prince exerce sur les droits publics. Retisser le lien entre l'auctoritas regis et la tutela regni revient ainsi à insister sur la densité plus lourde de l'autorité royale par rapport à la potestas des princes, conformément aux interprétations du binôme gélasien faites au premier quart du IXe siècle par l'empereur lui-même. Cela revient à fonder l'idée que tout acte touchant au sort du royaume et justifié par sa tutelle demeure du ressort exclusif de l'autorité royale. On comprend mieux, désormais, l'attachement dont porte témoignage le diplôme de 918 à fonder sur la seule tutelle les motifs de la conclusion du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Le Rex Francorum, Rector Regni, confirme ainsi sa vocation à assurer la protection de tout et de tous, de conserver entre ses mains le sort du royaume, conformément au vers rédigé jadis par l'évêque Amalric à l'intention de Louis le Pieux, « Vita vestra tutela omnium est ». Ainsi, Charles le Simple semble user de tous les ressorts à sa disposition pour conforter sa position, en s'appuyant tant sur la mise en lumière de son illustre ascendance qu'en renouant avec les racines lointaines de son autorité, telles qu'exposées notamment aux premières décennies du IXe siècle. Dans cette démarche, le roi reçoit, on le sait, le soutien indéfectible de l'archevêque de Reims, Hervé, qui, la chose est là encore connue, va se révéler l'un des principaux acteurs de l'intégration des Normands à la société carolingienne. Il a, à ce propos, été parfois allégué qu'Hervé avait commencé à travailler à la conversion des Normands dès avant le traité de Saint-Clair-sur-Epte, et particulièrement à l'occasion du concile de Trolli de 909. Certains historiens ont vu dans les appels à la paix des rédacteurs, formulés par les rédacteurs des canons de cette assemblée, je pense notamment à l'extrait de la praefatio des canons conciliaires, « Ceux qui ne veulent pas suivre Dieu en temps de paix, que du moins les coups les effraient et les convertissent ». Donc certains historiens ont vu dans les canons de cette assemblée Trolli la preuve de l'intérêt ancien que Hervé pouvait porter au baptême des pirates scandinaves. Bien y regarder toutefois, la question des païens n'est abordée à Trolli que de manière tout à fait classique. Il n'en demeure pas moins qu'à plusieurs égards, ce concile est une pièce essentielle à verser à notre dossier. D'abord, parce que en son premier canon, tout en rappelant les fidèles à leur devoir d'obéissance au roi, il restitue largement le contenu du ministère royal et, de manière induite, la tutelle que le monarque se doit d'exercer perpétuellement sur le royaume. Ensuite, parce qu'après avoir fait le constat tragique des iniquités qui submergent le monde, notamment des désordres qui imprègnent la société chrétienne, des carences dramatiques de l'encadrement religieux, Hervé et ses suffragants tentent de corriger ces mots en jetant les bases d'une véritable rénovatio imperii, plus exactement une rénovatio rei publica, une rénovation de l'État, par une sorte de régénération baptismale. Cette régénération, dont on sait que Dudon, je parle sous la réserve de Pierre Bouet, dont on sait que Dudon fera l'un des maîtres mots de la naissance de la Normandie, associé à la volonté du roi de renouer avec les sources de son autorité, esquisse le contour du contexte mental, disons une ambiance de retour aux origines, qui a préfiguré à la conclusion du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Sous bien des angles, l'historia Remensis plane sur la charnière des 9e et 10e siècles, et spécialement, nous allons le voir, sur la naissance du duché normand. L'action évangélisatrice de l'archevêque de Reims à l'égard des Normands doit en effet se comprendre à l'aune de celle que Rémy mena jadis à l'égard des Francs. Il ne sera pas inutile pour notre propos de rappeler que le souvenir de l'Apostolus Francorum apparaît dans deux actes royaux de 917 ainsi que dans la collection canonique que Hervé adresse à Guy de Rouen. C'est encore le sens à donner à la lettre que Jean X rédige à l'intention du prélat rémois autour de 914 à propos de la conversion des Normands de la Seine et dans laquelle le souverain pontife lui promet d'être jugé digne de connaître l'allégresse en compagnie du bienheureux Rémy. Plus encore, la Visio Caroli, rédigé entre 898 et 900, petit texte rédigé dans le diocèse de Reims, mais dont un manuscrit nous est parvenu par l'intermédiaire de Savandry, ce qui n'est peut-être pas anodin. La Visio Caroli, donc, fait de Rémy le gardien de la tradition dynastique, sans lequel la lignée royale aurait cessé de régner et d'exercer le pouvoir impérial. Les termes employés par le texte sont importants. Regnando et imperando. Nous retrouvons là les deux volets francs et romains à l'origine d'une dualité incarnée, toujours selon la légende rémoise, par Clovis lui-même. La translation de l'Historia Francorum dans le contexte de la création de la Normandie devrait ainsi nous aider à mieux comprendre la concession à Roland, Suisque comitibus, pro tutela regni, et dégager les traits généraux du premier droit normand. Le diplôme de 918 offre en effet quelques indices sur le cadre juridique de l'émergence d'une marche normande. Alors, selon une interprétation communément admise, le but principal du traité de 911 reste de préserver le royaume des attaques scandinaves. En ce sens, le Fodus de Saint-Clair-sur-Epte correspondrait à une alliance défensive et offensive, contraignant Roland à défendre le royaume contre ses compatriotes et à fournir au roi des secours militaires en cas de guerre. Cet engagement fut probablement accompagné d'un serment et de gestes rituels, notamment une datio manum, par laquelle se renouvelle une émagiculée de la terminologie juridique romaine où la main est une expression de la potestas. Concession d'un territoire, éventuellement restitution des biens de l'Église, paraissent être les autres objets de ce traité, sur lesquels se greffent deux volets tout aussi essentiels à configurer le statut des nouveaux occupants du sol neustrien, un volet religieux, un volet juridique. Alors, quant au premier, c'est-à-dire le volet religieux, les travaux notamment menés par Olivier Guillot m'exonéreront de longs développements. Quand bien même Roland a pu se rapprocher dès avant 911 de la religion chrétienne afin de favoriser ses contacts avec les élites franques, peut-être par le rite de la primaximatio, il est probable que sa conversion n'a été que très aléatoire. La parabole du princeps latronum contenue dans la collection de Hervé de Reims pourrait le laisser supposer. D'autant que lors de la conclusion du traité de Saint-Clair-sur-Epte, l'enjeu de la conversion, me semble-t-il, dépasse la seule personne du chef viking. Il s'agit alors d'intégrer un peuple à la civilisation chrétienne, conformément, là encore, à la légende rémoise, qui véhicule l'idée que, jadis, le baptême de Clovis avait été l'occasion de débarrasser tous les Francs de leur barbarie et de leur paganisme, et de nouer avec, leur nation et l'Église, un lien tout à fait particulier. Le fameux rescrit que Jean X adresse à Hervé de Reims, dans lequel le pontife conseille au prélat rémois d'être attentif à ce peuple voisin de vos confins et d'en comprendre les mœurs et toutes les actions, demeure notre principale source de renseignement sur la démarche entreprise par les évêques francs. L'attention que Hervé doit porter à la compréhension des mœurs des Normands invite à ne pas voir la conversion de ces derniers comme un geste brutal, imposé par la force, mais au contraire, comme une modulation à propos de la rigueur de la règle ecclésiastique. Il y a là un très intéressant parallèle à tracer avec l'attitude que l'archevêque de Reims a déjà adoptée lors du concile de Trolley. Les canons de cette assemblée révélant en effet qu'une pastorale exigeante n'est plus de mise au début du Xe siècle face au déclin de la discipline socio-religieuse et que, sur certains points, par exemple l'inceste, l'application des lois doit faire preuve de moins de sévérité que par le passé. Dans la collection que Hervé de Reims adresse à Guy de Rouen, le traitement des Normands y est, lui aussi, plus doux que l'impose ordinairement le droit canon. Ainsi, l'archevêque rémois, tout en les condamnant dans le principe, admet le maintien temporaire de certaines pratiques païennes et amène à une sorte de vulgarisation des règles ecclésiastiques en vigueur dans la première Normandie. Cette modularité de la discipline canonique correspondrait à la volonté profonde de voir aboutir un processus d'intégration religieuse doublé, nous allons le voir maintenant, d'un processus d'intégration juridique. Il est en effet hautement probable qu'à côté de la conversion des Normands de la Seine, le feudus de Saint-Clair-sur-Epte a prévu la régulation par le droit des rapports entre Scandinaves et Neustriens. L'hypothèse que le traité de 911 contienne un embryon de prescription juridique est rendue d'autant plus probable qu'elle est, primo, conforme au contenu de la charge tutélaire liée au ministère royal et, secondo, confortée par un proche précédent que ne peuvent ignorer les parties en présence, c'est-à-dire la fondation du Danelaw à peine un quart de siècle auparavant. On se souviendra en effet que plusieurs traités, conclus notamment entre 886 et 890, ont jeté les bases d'une régulation juridique des rapports entre Scandinaves et Anglo-Saxons. Ce précédent anglo-scandinave livre le modèle d'une sécurisation des habitants indigènes demeurés dans le royaume anglo-danois, d'une résolution pacifique des disputes à travers une procédure légale qui ramène la violence à un niveau relativement acceptable, et finalement d'un phénomène d'acculturation juridique, la loi étant ici un élément crucial dans la stabilisation des relations entre colonisateurs et population locale. Que ce soit à la lumière du précédent anglo-danois, et plus encore, à travers le prisme de la tradition rémoise, la confrontation des cultures juridiques reste une dialectique complexe. En Normandie, cette confrontation aboutirait à jeter les fondements d'un droit particulier, certainement oral, assurant un retour à l'ordre, notamment par une limitation au moins au sein du territoire concédé, d'un système vindicatoire peu propice à assurer la paix sociale et la cohabitation entre indigènes et nouveaux venus. Cette régulation des rapports juridiques, dans lesquels, le groupe majoritaire, les Francs, se voit théoriquement assuré du respect de ses droits, ramènerait finalement les coutumes scandinaves à une forme résiduelle qui illustrerait le peu de traces palpable que l'on en décèle à plusieurs décennies de là. Ce processus d'acculturation, auquel certains historiens ont conféré le nom de accommodation, s'appuierait sur une relative tolérance dans l'application des règles sociales et sur des éléments institutionnels, laïcs et ecclésiastiques, dont les historiens ont maintenant admis la continuité entre les époques franques et normandes. Le très ancien droit normand, n'étant alors plus considéré comme le pur reflet des traditions gentilices, il serait le fruit de la nécessité d'atténuer l'opposition entre des cultures jusqu'alors perçues comme antagonistes. En résumé, le premier droit normand ne serait ni celui des conquérants, ni absolument celui des conquis, mais le produit de la recherche d'un régime de paix, auxquels étaient attachés des sujets de traditions juridiques différentes. Il serait le résultat, sous les auspices de l'archevêque de Reims et très probablement du roi, d'un double processus de francisation des mœurs normandes et d'une sorte de vulgarisation du droit franc. Processus qui n'est pas sans analogie, nous allons le voir, avec le phénomène juridique propre à la rencontre du droit romain et des droits barbares durant l'Antiquité tardive. C'est en effet certainement ici que l'exemplum francorum prend tout son sens et que peut se situer le plus net parallèle entre l'installation franque en Gaule romaine et l'installation normande en Neustrie. Des études récentes, j'y faisais allusion tout à l'heure, sur les origines du droit franc, découlent en effet l'analogie que l'on peut tenter de dresser entre le pactus legis salicae et ce que l'on pourrait désormais appeler le pactus legis normaniae, c'est-à-dire le volet juridique du traité de Saint-Clair sur Epte. L'un et l'autre de ces pactes, le salien et le normand, semblent en effet correspondre au souhait des autorités de moduler le droit commun pour en permettre une meilleure application. Comme ce fut jadis le cas au IVe siècle, ce qui dominerait lors de la conclusion du traité de Saint-Clair sur Epte serait une forme de pragmatisme juridique, à peu de choses près, identique au pragmatisme dont fait preuve Hervé de Reims dans la conversion religieuse. Adaptation ou, plus exactement, vulgarisation de la loi aux usages, que l'on retrouve du reste ailleurs dans la tradition franque. Alors certes, il sera aisé de révéler les périls de la mise en parallèle des deux démarches salienne et normande. Il a été ainsi écrit, à bon droit, je crois, que le pacte franc pouvait initialement correspondre à une lex data, c'est-à-dire à une loi imposée par l'autorité romaine à une société ou à une nation étrangère, soumise aux règles de la déditio. Or, quoique leur récente défaite sous les murs de Chartres a très certainement conditionné les rapports de force entre francs et normands lors de la conclusion du traité de Saint-Clair sur Epte, il me semble exagéré de conférer aux normands le statut de déditis malgré les interprétations qui ont pu être faites du fameux Osculum Pedis. Au-delà de ces réserves, le précédent salique peut toutefois permettre, je pense, de saisir la nature des premières lois normandes. L'idée selon laquelle Roland disposait, dès la naissance du duché de Normandie, d'une pleine capacité à légiférer, doit maintenant être considérée comme désuète et anachronique. L'acceptation des conditions de leur installation et de la réglementation afférente fut probablement à la manifestation d'une volonté collective du futur duc et de ses principaux compagnons. Cette participation des primatesses normands à la conclusion du pactus legis normaniae serait en outre conforme à la cession de la future Normandie à Roland et à ses comtes, Rolloni suisque comitibus, comme le révèle l'acte de 918. Alors certes, dans cet acte, Roland y est particulièrement distingué et semble prendre rang de ministère régis. Il serait à ce titre garant autant de l'accord passé avec le roi que de l'application au nom de ce dernier, au sein du territoire concédé, du respect des lois et des droits. Ce diplôme n'est pas sans évoquer, par cette allusion au compagnon de Roland, cette égalité de potestas à laquelle les historiens de la Normandie le savent, du don de Saint-Quentin et plus encore Guillaume de Jumièges font allusion, n'est pas sans évoquer un topos de collaboration des grands au processus normatif, topos très largement présent dans les sources franques, disons-le aussi françaises, du 9e au 11e siècle. Elle n'est pas non plus sans évoquer la double action de plaquere et convenire contenu dans le prologue court de la loi salique. Cette double action, plaquit et convenit, exprime autant l'assise populaire du droit qu'elle restitue une forme ancienne de la terminologie normative romaine qui évoque autant le consensualisme que l'expression du pouvoir impérial. Alors, on sait toutefois que le pacte de la loi salique a été fixé par écrit par le premier roi des Francs, et que ce pacte n'a pas tardé à évoluer. Le prologue long de la loi salique qui a été rédigé tardivement aux alentours du 8e siècle, énonce que le texte de la loi a été amendé, emendatum, par les traits au roi Praecelsos Reges que furent Clovis, Childebert et Clotaire. Le pacte est dès lors devenu décret, manifestation des rois eux-mêmes devenus rectores regni. Progressivement donc, les évolutions de l'idéologie royale, très largement influencées par l'idéologie impériale, ont amené à placer sous l'autorité des rois francs, sous leur décrétum, cette force légale, contribuant à fonder pour la France le mythe du législateur fondateur. Or, cette évolution semble se reproduire dans le cas normand. On se souvient en effet que la fameuse formule de Dudon restituant l'émergence des premières lois normandes, rappelle que celles-ci furent établies par le duc ex voluntate principum. Le De Moribus conserverait ainsi la mémoire du pacte ancien accepté par les primates normands en 911, tout en combinant ce souvenir avec une ambition très nette de translater, à la fin du Xe siècle, les marques de la royauté au seul bénéfice ducal. Cependant, les successeurs de Dudon, occultant progressivement la participation des grands, ont achevé l'évolution de ce processus idéologique en focalisant sur la seule autorité de Rollon l'émergence des premières lois normandes, attribuant au duc seul le crédit de leur édiction. On peut considérer donc que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le parallèle entre l'histoire des Francs et celle des Normands révélerait, au-delà d'un processus juridique qui dérive probablement d'un fond ancien et commun, une similitude idéologique et la métamorphose croissante des deux pactis initiaux en deux lois, j'ose, quasi-constitutionnelles, reposant sur les législateurs fondateurs que furent Clovis pour les Francs et Rollon pour les Normands, deux lois toutes deux initiatrices d'une identité juridique propre.